Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er février 2019. Alors après le mois le plus débile depuis 50 ans, voici le meilleur mois depuis 30 ans. Nous sommes le 1er février et comme chaque premier de chaque mois, l'heure est au bilan et aujourd'hui, il y a de quoi faire des bilans. Du point de vue des chiffres, c'est exceptionnel. Le S&P 500 avance de 7,9% pour le mois, le Dow Jones de 7,2%, le Nasdaq de 9,7%. En ce qui concerne le S&P 500, ça n'avait plus été aussi bon depuis 1987. Bon signe, mauvais signe, je ne sais pas. Pour le Dow Jones, c'est le meilleur mois depuis 1989. Et pour le Nasdaq, c'est depuis 2001 que ça n'était pas arrivé. En ce qui concerne le Nasdaq en 2001, comme on venait de se faire défoncer, laminer et pulvériser après le dégonflement de la bulle Internet, ce n'était pas non plus un exploit. Tout comme cette année où on s'est fait exploser en décembre sur des fausses indications et une mauvaise compréhension des intentions et que nous nous sommes contentés de corriger le tir en janvier. Car oui, soyons réalistes, ce n'est pas « ça allait mieux en janvier », c'est juste que l'on a corrigé nos erreurs de décembre, puisqu'aujourd'hui, on nous a expliqué longtemps, on a compris que l'on avait fait une erreur en décembre. Ou alors, j'ai pas tout bien compris. Pour l'Europe, le DAX a repris 5,6%, la France 6,5%, l'Italie plus de 7,5% et la Suisse est en hausse de 6,5%. L'Europe a peut-être d'ailleurs fait un mois qui correspond au plus gros hold-up du siècle, parce que remontée de 6% en moyenne alors que le patron de la BCE prévient que l'avenir est noir, que l'Allemagne coupe ses prévisions de croissance en deux, que la moitié du continent est dans une merde sociale noire, sans compter que les dissensions entre pays de l'Union n'ont jamais été aussi fortes, en ne parlant pas de la montée des extrêmes, on peut se demander ce qui nous passe par la tête. Quand je dis l'Europe, je n'inclus pas la Suisse, parce que contrairement à ce que cet abruti, cet idiot, ce débile de Moscovici voudrait, la Suisse n'en fait pas partie. Visiblement, en ce mois de janvier, on a décidé que pour l'Europe, il était plus important de suivre les USA que de représenter la réalité économique du continent. On peut argumenter sur le fait que les USA sont simplement revenus là où ils devaient être, parce que l'on a exagéré en décembre. Mais en ce qui concerne l'Europe, on peut se demander si nous n'étions pas simplement là où on devait être et que c'est maintenant que l'on exagère. Bref, le mois était bon. Bon, le mois de décembre était pourri et stupide et nous avons repris ce qui était notre dû. Merci, monsieur Powell, de nous avoir expliqué longtemps, suffisamment longtemps pour que l'on finisse par comprendre. Et si le mois de décembre n'était pas pourri et stupide, je ne sais pas pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce qui voudrait peut-être dire que là, le mois de janvier était stupide, mais ça, on ne saura que dans quelques mois. En tous les cas, les spécialistes en statistiques sont formels. Quand janvier est bon, février a tendance à répliquer le mois de janvier. Pas en termes d'amplitude, mais en termes de direction. Alors, il faut savoir que le mois de février est un des mois les plus inintéressants de l'histoire boursière. Si, si, depuis 50 ans, si vous n'avez investi qu'en février, vos rendements sur 50 ans seraient de 6%. Pas annualisé, hein, 6% sur 50 ans. Et puis après, on peut aussi dire que sur les 70 dernières années, lorsque le mois de janvier est en hausse, il n'y a eu que 5 fois où l'année a terminé en baisse. Tout le reste du temps, c'était janvier en hausse, l'année en hausse. Pour terminer dans les statistiques, vu que nous sommes en février et que dimanche c'est Super Bowl, on va nous ressortir le fait que si c'est les Patriots de Boston qui gagnent, l'année sera bériche, et si c'est Los Angeles qui remporte le trophée, ça sera pour les Bulls. Sauf que l'an passé, ça n'a pas fonctionné et que ça marche de moins en moins bien ces dernières années. Trouver des points de corrélation pour prédire la direction, c'est à peu près la direction du marché, c'est à peu près aussi valable que de jouer à pile ou face. Je viens d'ailleurs d'apprendre que le truc qui est le plus corrélé avec les performances des marchés sont la production de beurre au Bangladesh et la consommation de crème glacée. En même temps, quand on voit comment on s'est fait berner en décembre, je ne suis pas loin de croire que l'on peut faire avaler à peu près tout ce qu'on veut à ce marché de professionnels dirigés par des algorithmes. Hier, la journée était donc au bilan. On retiendra cependant le carton de Facebook qui a explosé, comme prévu, de plus de 10%. Dow Dupont a raté sa journée avec des chiffres décevants, des revenus qui ne croisent pas et un pétrole qui les fait souffrir. Le titre perdait 10%. GE a publié des chiffres merdiques, mais à l'intérieur du package, on trouvait quand même que les revenus et les cash flows étaient meilleurs et le titre s'en volait pour sa meilleure journée en 10 ans. Bilan à la clôture, plus 11,65%. En même temps, après s'être fait démonter depuis des mois, il n'y a pas non plus de quoi faire les malins. Autrement, c'était bon chez UPS, ce qui est toujours bon un bon signe pour l'économie. Bon également chez Charter Communications, Sprint, Conoco, mais pas terrible chez PayPal qui se méfiait de l'avenir. En Europe, Unilever a perdu 2% après avoir annoncé que l'année 2019 ne serait pas facile, tout comme Nokia qui la voit plutôt bumpy. Pour le reste, l'or est à 1323 et en route pour les 1360$ et le pétrole est à 53,86 et finira par aller à 65. Ce matin, Hong Kong recule de 0,3% et le reste monte de façon homéopathique. Mais ça monte. À noter, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, que vous trouverez directement sur la chronique sur le site, que la Chine ne baisse plus et qu'elle a clairement cassé sa tendance baissière de 12 mois. Alors peut-être bien que 2019 sera l'année du cochon. Ça nous changera des boules et des bers. À noter quand même que les chiffres économiques chinois de ce matin étaient tout pourris, mais tout le monde s'en balance, comme de sa première paire de boutons de manchette. Puisque de toute façon, on reparle de la Chine et des USA, puisque hier, Trump a tweeté pour dire que les négociations se passaient bien, un peu comme tout le monde le prévoyait. D'ailleurs, le président américain se tâte pour aller refaire un sommet avec le président chinois pour en finir une fois pour toutes avec cette trade war qui nous aura bien pourri la vie. C'est en tous les cas ce que l'on spécule dans les médias professionnels. Autrement, les journaux reviennent sur les chiffres de GE et pensent qu'ils sont en train de sortir de la crise et d'envoyer des messages d'espoir. On se croirait dans un film hollywoodien. Il y a un mois, on était en train de s'ouvrir les veines avec un vieux couteau tout rouillé. Le marché était mort, l'économie était morte, l'avenir était mort, la vie était morte et GE était presque mort. Et là, un mois après, ils vont se marier avec la princesse et avoir beaucoup d'enfants. J'adore ce métier, j'adore ce milieu, c'est l'endroit où vivent le plus de fantasmes et d'obsessions au mètre carré. Amazon a également publié ses chiffres. Pour être franc, il faut être spéléologue pour plonger dedans et les comprendre. Pour faire simple, on dira que les ventes étaient spectaculaires, que le business de la pub était fantastique, que la croissance du business du cloud était monstrueuse et que les revenus du trimestre étaient records. Mais on dira aussi que la croissance ralentit, que les perspectives de vente pour le trimestre à venir sont en baisse et que les dépenses vont augmenter, sans compter que Bezos va se faire démonter dans son divorce. Au final, Amazon perdait 5% after close hier soir. Petit chiffre intéressant à propos d'Amazon, après le trimestre d'hier, et ce depuis 1997, soit depuis leur IPO, Amazon a cumulé 20 milliards de revenus nets. Apple a fait 20 milliards de revenus nets juste le trimestre dernier. Capitalisation boursière d'Amazon, 787 milliards, Apple, 840 milliards. Tesla fait sa promo en pariant sur la Chine. Musk est sorti pour en parler partout. Le fabricant de voitures électriques qui, à la fin, pollue plus qu'un diesel de Sochaux, lance sa campagne de marketing. Il est intéressant de se poser la question de la recharge des voitures électriques. Si j'ai bien compris, pour rouler en Tesla, il faut la recharger avec de l'électricité. C'est bien parce que ça pollue pas. Par contre, il faut la fabriquer, l'électricité. Non, parce qu'il paraît que ça pousse pas dans la nature. Ou alors, il faut courir à la poursuite des éclairs. Et selon Marty McFly et Doc Emmett Brown, ce n'est pas simple. La preuve, il n'y aura pas de retour futur numéro, de retour vers le futur numéro 4. Donc, du coup, il va falloir les recharger, toutes ces Tesla non polluantes, et que Musk va vendre en Chine. Et avec 70% de la production électrique chinoise qui provient du charbon, ça va être sympa. Pour ne pas polluer, on se réjouit déjà. Personnellement, je reste au V8 de 750 chevaux, ça me paraît quand même vachement plus sympa. Pour ce qui est des chiffres économiques, nous sommes vendredi, nous sommes le 1er février, et c'est le jour des chiffres de l'emploi. Les non-farm payroll seront de sortie. Pour les trimestriels, il n'y aura pas grand-chose, puisque c'est vendredi, et que vendredi, on fait poisson et on fait léger. Léger en termes de chiffres trimestriels aussi. Nous aurons tout de même Chevron, Honeywell, Johnson, Controls, Novo Nordisk, Timberland et Ferrari. Ferrari, ça tombe bien, je vais tester la nouvelle GTC4 Lusso sur la neige dans pas longtemps, ça fera au moins un truc à raconter. Comme nous sommes vendredi, je profite encore un peu de votre temps pour faire ma promo. À partir de tout de suite, je viens d'être engagé pour la rédaction de 4 rapports weekly par mois, et oui, il y a 4 semaines dans un mois, ainsi que d'un rapport mensuel complet sur les marchés, avec des idées d'investissement, des price targets et des stop loss, environ 18 pages de rapports. Par contre, ceci fonctionnera via un newsletter. Vous trouverez tous les détails en cliquant sur le banner ci-dessous. Et par contre, cette fois, c'est pas gratuit, mais c'est pas si cher que ça finalement. Et puis, pour les plus anciens, j'ai réanimé le Morning Bull. Il est de retour et c'est comme ça que s'appellera ce rapport mensuel. Passez un excellent week-end et je vous retrouve gratuitement lundi matin, ici même.